La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Semaine de l'Art avec deux invités cette fois, Charles Personnard et Emmanuel Pénicaud, qui ont écrit un ouvrage sur la rue de Valois, sur le ministère de la Culture, et qui font des propositions assez décapantes. Je pense qu'ils ont lu la Tribune de l'Art et je les en remercie, puisque certaines choses sont inspirées peut-être de la Tribune de l'Art, d'autres pas du tout, et nous pourrons en discuter. Il y a des solutions avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Donc c'est intéressant d'avoir deux personnes qui ont écrit sur la culture, parce qu'en ces temps d'élection, malheureusement, à part François de Mazières que je recevais la semaine dernière, il n'y a pas de livre qui soit sorti sur la culture, des livres politiques qui soient sortis sur la culture. Donc peut-être que je vais leur demander de se présenter en deux mots chacun. Charles Personnard, vous connaissez bien le ministère de la Culture, puisque vous y avez vous-même travaillé.
Bonjour Didier Rickner. Oui, j'ai travaillé au ministère de la Culture. J'ai travaillé précédemment au ministère de la Défense sur les questions culturelles, aussi étonnant que cela puisse paraître. Et j'ai été directeur de l'association de préfiguration de la Maison de l'Histoire de France, qui était un projet culturel qui a été porté sous le mandat de Nicolas Sarkozy et abandonné sous le mandat de François Hollande.
Nous en dirons un mot. Hein. Nous n'étions pas forcément d'accord sur la finalité de cette maison d'histoire de France. Vous en parlez, vous en dites deux mots dans votre livre. Et Emmanuel Pénicaud, donc, vous êtes conservateur.
Bonjour Didier, je suis en effet conservateur du patrimoine. Je travaille depuis une dizaine d'années au ministère de la Culture. J'ai commencé également au ministère de la Défense. J'ai travaillé comme chargé de mission scientifique dans le cadre du projet de la maison d'histoire de France. J'ai travaillé dans le secteur des archives de France et aujourd'hui à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine.
Alors dans votre petit livre, qui n'est pas très épais mais qui est très dense, vous commencez par être assez critique avec ce qu'on a vu depuis pas seulement 10 ans mais 20 ans au ministère de la Culture, avec un cycle que vous expliquez, un cycle finalement on donne pas beaucoup d'argent, ensuite on s'aperçoit que finalement, c'est pas si cher que ça, donc on donne un peu d'argent et puis ça recommence, mais finalement, sans s'attaquer réellement au vrai problème, et peut-être avec un champ trop large. Alors, pouvez-vous nous dire un mot, peut-être, Charles, de ce cycle, et de vous, ce que vous avez, votre expérience à l'intérieur du ministère de la Culture, quand vous étiez charge de conseiller, vous étiez finalement conseiller de ministre.
Alors, sur un projet particulier, ce dont on s'aperçoit, je crois, depuis une vingtaine d'années, je dirais, c'est qu'effectivement, plus personne ne s'est reposé la question de pourquoi l'État doit s'engager en matière culturelle. Et cela a des incidences, c'est que on est dans un jeu de posture aujourd'hui, que l'on retrouve dans cette élection présidentielle, avec une gauche qui défend plutôt la création, une droite qui défend plutôt le patrimoine, et au fond, plus personne ne se demande si ce n'est les invocations d'usage sur le vivre ensemble, sur la défense de notre civilisation, de nos valeurs, etc. Personne ne s'interroge aujourd'hui sur la question de savoir pourquoi l'État doit intervenir en matière culturelle. Cela ne va pas de soi, finalement, dans une société démocratique, que l'État intervienne en matière culturelle. Et il faut se poser la question, définir ce qui a toujours été un tabou au ministère de la Culture, définir ce qu'est la culture, et la culture que l'État doit défendre, pour finalement essayer de dire ce que sont les missions de l'État et ce que sont les missions des autres acteurs de la culture, c'est-à-dire évidemment les collectivités territoriales, évidemment au premier chef les artistes, évidemment les métiers du patrimoine et de la protection du patrimoine, mais cela doit être précédé par une réflexion qui, à notre avis, je crois, Emmanuel sera d'accord avec moi là-dessus, n'a pas été menée depuis trop longtemps, depuis Jack Lang.
Alors, justement, cette réflexion, vous l'avez menée. Emmanuel Pénicaud, pouvez-vous, en deux mots, dire votre définition, finalement, de la culture ?
Qu'est-ce que la culture ? Alors, on pourrait aligner beaucoup de citations de grands hommes et de grands hommes de la politique culturelle sous la Ve République, à commencer par Malraux, évidemment. Il nous semble que la culture, c'est ce qui permet à l'homme de sortir de lui-même, de s'élever au-dessus de lui-même, d'avoir conscience d'un quelque chose qu'on ose appeler le beau, même si le mot est lui aussi bien difficile à définir. Il me semble que la métaphore du jardin, en ces temps où une magnifique exposition sur les jardins se propose est proposée au Grand Palais, la métaphore du jardin est assez parlante. C'est-à-dire que d'une terre, on peut toujours tirer quelque chose, on peut faire pousser quelque chose, et il nous semble, mais là c'est vraiment une réflexion sociale, que voilà, de chaque homme, on peut croire qu'il y a une conscience culturelle, c'est-à-dire une capacité, évidemment différente selon chaque individu, mais une capacité à s'élever au-dessus de lui-même, à contempler, à apprendre, bref, à cultiver le terreau qui est l'homme lui-même.
Par rapport à cela, vous dites que tout n'est pas culture, ce avec quoi je suis entièrement d'accord, et vous faites une distinction, même si vous dites, et là je suis également d'accord avec vous, que on ne peut pas, il n'est pas question de hiérarchiser, en tout cas de dire que quelque chose n'est pas bien ou quelque chose est bien, mais simplement vous dites que tout n'est pas au même niveau, et que l'État n'a pas à s'occuper de tout.
Oui, au fond, on a l'impression qu'au ministère de la Culture, peut-être depuis Jack Lang, mais plus anciennement, je pense, depuis Malraux, deux conceptions de la culture cohabitent. Une conception qui est celle qu'Emmanuel vient de définir, que l'on pourrait qualifier de transcendante, c'est-à-dire que l'homme dépasse sa condition par la culture, hérite d'un legs dont il fait un tri, et chaque individu fait le tri dans ce legs, et ce legs, il le transmet, et parfois il l'enrichit. Ça, c'est une première conception, que j'appelle conception transcendante. Et puis, il y a une autre conception qui existe au ministère de la Culture, qui est de dire, eh bien, la culture, finalement, c'est un art de vivre, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble au jour le jour, et donc, à ce moment-là, cela comprend aussi la gastronomie, la fête, et un certain nombre de pratiques populaires qui n'ont évidemment rien de condamnable en soi, et là j'insiste, et vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence, il n'y a pas une révocation de l'un au profit de l'autre, simplement il faut savoir de quoi on parle, et de quoi doit s'occuper l'État. Et nous avons le sentiment que l'État doit faire un choix, puisque l'État, qu'est-ce que c'est au fond ? L'État, c'est ce qui permet à la nation de se transmettre elle-même aux générations suivantes. Et donc l'État, qui est cette colonne vertébrale, lui, doit travailler sur cette définition première de la culture, qui est effectivement ce qui aide au dépassement de chacun, et donc cette dimension transcendante qu'a la culture.
Alors on s'aperçoit que finalement, de ce que vous dites dans votre livre, que le ministère de la Culture, c'est pas la culture générale, c'est pas non plus cette distinction entre ces deux types de culture que vous avez donné. Donc qu'est-ce qui, au sein du ministère de la Culture, ne devrait pas finalement relever du ministère de la Culture ? Parce que, n'ayons pas peur des mots, c'est ce que vous dites en fait dans votre livre, il y a une partie de la culture qui ne devrait pas relever du ministère de la Culture parce que ça ne relève pas de la transmission ou de l'élévation au-dessous de soi que devrait représenter l'État.
C'est tout le paradoxe du ministère de la Culture, qu'il n'a absolument pas le monopole de la chose culturelle. Il y avait de la culture, entre guillemets, en France, bien avant 1959, on s'en doute bien, et le premier ministère chargé de cultiver nos concitoyens, c'est évidemment l'éducation nationale, puisque toute cette transmission, toute cette inculturation, pourrait-on dire, elle se fait d'abord à l'école, hein, à l'école primaire, au collège, au lycée. Il ne faut pas confondre, en effet, ce qui relève du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture, à chacun ses missions, et je ne suis pas certain que la fameuse éducation artistique et culturelle dont on nous rebat les oreilles depuis des décennies soit vraiment le bon moyen de faire se coordonner ces deux ministères. Il faut considérer également dans les activités qui relèvent du ministère de la Culture aujourd'hui, ce qui finalement relève presque plus d'une logique purement économique. Il faut peut-être avoir le courage de regarder ce qu'est aujourd'hui France Télévisions, ce qu'est aujourd'hui la radio publique. Dans quelle mesure ces missions relèvent-elles strictement du ministère de la Culture ? C'est une question à poser. Il faut également considérer ce qui relève des affaires culturelles et qui ne dépend pas du ministère de la Culture, et notamment tout ce qui est action culturelle à l'étranger, qui relève aujourd'hui du ministère des Affaires étrangères, avec certes des avantages, mais aussi peut-être des inconvénients en termes de politique publique de la culture.
Alors nous reviendrons sur tout cela pour détailler un peu ces différents points. Avant de passer à certains exemples que vous prenez sur notamment quel type de tâches culturelles transférées de l'un à l'autre, ou qu'est-ce qui dépend de l'État, qu'est-ce qui dépend des départements ou de la région, j'aimerais vous poser une question alors un peu polémique, disons, mais qui est très d'actualité, puisque dans 15 jours environ, Emmanuel Macron sera élu président de la République. Or, Emmanuel Macron a dit quelque chose sur la culture qui, moi, m'avait particulièrement choqué, parce que c'est absurde. Il n'y a pas d'art français. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Il n'y a pas d'art français, il n'y a pas de culture française. On parle de culture, là, vous essayez de définir la culture, et tout d'un coup, il n'y aura pas de culture française. Or, vous dites que l'État, bah, c'est la l'État doit s'occuper de la culture, donc il s'occupe de quelle culture s'il n'y a pas de culture française?
Il y a évidemment une culture française, et je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on peut entendre ce genre de propos. Alors, peut-être qu'Emmanuel Macron voulait dire que la culture française se nourrissait d'apports extérieurs, ça on est tout à fait convaincu de ça, notre littérature, nos arts se sont nourris évidemment d'influences extérieures, évidemment cela continuera, et il n'y a pas une essence française, mais il y a quelque chose qui fait que l'on reconnaît un monument français, qui fait que l'on reconnaît la littérature française, et il ne viendrait à l'esprit de personne dans d'autres pays de dire que Shakespeare n'est pas anglais, ou que Tchekhov ou Tolstoï n'est pas russe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une portée universelle. C'est pas parce qu'on est, il y a une culture française qu'elle ne porte pas une part d'universel. Évidemment, la grande spécificité peut-être de la culture française, c'est qu'elle s'est perçue à partir de la Renaissance ou du XVIIe siècle comme une culture qui avait une portée universelle. Alors peut-être qu'Emmanuel Macron veut dire qu'il y a cette volonté de portée universelle qui est intrinsèque et permanente dans la culture française. Mais évidemment, il y a une culture française. Et évidemment, le sujet pour le ministère de la culture, c'est de porter cette culture française. En fait, ça va très loin. C'est-à-dire qu'il y a ça ne posait évidemment pas de question à Malraux de penser une culture française, même s'il pensait que c'était l'ensemble des chefs-d'œuvre de l'humanité qui devait être mis à disposition des citoyens et à la contemplation des citoyens. Mais on traverse une crise très profonde, finalement, de remise en cause de la culture française, mais aussi de la culture européenne, hein, parce que ce sont des réflexions qu'on peut retrouver en Allemagne, par exemple. Et on a eu tendance à considérer que rien ne nous appartenait en propre, d'une certaine manière, que nous n'héritions de rien, et que nous n'avions rien à transmettre également. Et ça rejoint les deux conceptions, finalement, de la culture que j'essayais d'évoquer tout à l'heure.
Oui,
juste un complément. J'ai été très frappé par cette phrase, il n'y a pas de culture française, hein, je crois, d'Emmanuel Macron. J'y ai retrouvé les débats que nous avions entendus au moment de la Maison de l'Histoire de France, où nous avons entendu 10 fois, 100 fois, 1000 fois, il n'y a pas d'histoire de France. Voilà, il n'y a pas d'histoire de France. Et on retombe sans cesse sur ce paradoxe français, cette difficulté à regarder son passé, à l'assumer et à se sentir l'héritier d'un véritable passé, d'une véritable culture. Jean-Pierre Rioux disait bien, malgré tout, malgré toutes les interférences, malgré une chaîne des causalités qui n'est jamais automatique, il y a bien un fil rouge qui s'appelle l'histoire de France et qui fait que la France aujourd'hui est la France et n'est pas l'Espagne et n'est pas l'Allemagne et n'est pas l'Angleterre. Il me semble que c'est exactement la même chose en matière culturelle.
Alors, dans vos propositions de ce que doit garder le ministère de la Culture dans son périmètre, pour vous, il y a préserver et transmettre, deux termes très importants. Et vous employez également le terme qui, moi, me convient parfaitement, que j'utilise souvent, et finalement qu'on n'entend pas très souvent à propos du patrimoine. Par exemple, préserver, vous parlez d'un rôle régalien d'État. Préserver, c'est le patrimoine. Vous parlez essentiellement du patrimoine.
Oui, nous parlons effectivement essentiellement du patrimoine. J'en reviens toujours à mes deux définitions de la culture, hein, et le choix que nous posons. Si nous considérons que le rôle du ministère de la Culture et de l'État, c'est de recueillir et de transmettre un legs, eh bien évidemment, il faut préserver ce legs. Et ce legs, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement le patrimoine, sous toutes ses formes, évidemment. Le patrimoine architectural, le patrimoine mobilier, le patrimoine artistique, le patrimoine culturel dans son sens le plus large, et nous reviendrons sur le fait que ce patrimoine culturel n'est pas de l'entière responsabilité du ministère de la Culture, ça c'est une question. Mais effectivement, s'il y a bien un rôle régalien, central, qui s'est affirmé à partir du XIXe siècle au sein de l'appareil d'État, et de façon tout à fait neuve, hein, à partir de la Révolution française, c'est bien ce rôle de préservation du legs transmis par les siècles. Et puis transmission, on y reviendra plus en détail sans doute avec Emmanuel précisera tout ça, mais préservation, transmission parce qu'il nous semble que là aussi l'État doit être le garant de la transmission de ce patrimoine et des techniques artistiques aux générations qui suivent. Et cela veut dire qu'il doit être le responsable de l'enseignement supérieur en matière de patrimoine et de beaux-arts.
Préserver, c'est le rôle de l'État. Malheureusement, et vous le dites bien dans le livre, l'État, parfois, est celui qui détruit. et souvent même. Et là, je dois dire que je buvais du petit lait quand j'ai lu votre livre, parce que vous prenez des exemples comme les serres de Teuil, l'église Saint-Jacques d'Abbeville, le musée des tissus de Lyon, quelque chose qui est toujours pendant. Et on a beaucoup entendu ces derniers jours le maire de Lyon, Gérard Collomb, qui est quand même celui qui a fermé un musée, le musée de l'Hôtel Dieu, et qui risque d'en fermer deux autres. Donc ça inquiète un peu pour l'avenir, le musée des arts, le musée des tissus des arts décoratifs de Lyon, le musée d'assistance publique de Paris, les questions d'éoliennes, qui posent beaucoup de problèmes et beaucoup d'interrogations, les restaurations abusives de Versailles, destruction et reconstruction de la piscine Molitor, destruction d'immeubles de la Samaritaine, les églises en ruine. Vous avez lu la Tribune de l'Art.
Comme des lecteurs assidus.
Nous avons lu le Code du patrimoine, tout simplement. Code du patrimoine et non pas Code de la culture. Hein. Le titre ne vous aura pas échappé. Ce qui nous a marqué, en effet, c'est le hiatus entre la clarté des textes, entre les principes de préservation qui sont clairement établis par le Code du patrimoine et la difficulté de l'État aujourd'hui à défendre ces textes, à les faire appliquer et à tenir haut et fort le discours qui correspond à ces textes. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'État a peur de ses propres textes et n'ose plus affirmer les principes qui ont présidé à la rédaction de ces textes.
Alors, il a peur de ses propres textes, il a peur des élus aussi. Il a vraiment peur des élus, parce que dès qu'un élu décide quelque chose, moi je peux en témoigner, l'État, les services de la DRAC, je rencontre beaucoup de DRAC et beaucoup de gens très bien dans les DRAC, parce qu'il y a beaucoup de gens très bien au ministère des Cultures, je ne cesserai de le dire, mais que malheureusement, c'est leur hiérarchie qui ne pense qu'aux politiques, qui les bride totalement. Et si on laissait vraiment faire les spécialistes du ministère des Cultures, je peux vous assurer que beaucoup de ces dossiers-là ne seraient pas des vrais dossiers, et simplement, tout revient aux politiques.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est un... On parlerait d'agriculture ou on parlerait d'aménagement du territoire ou d'équipement, on se poserait exactement les mêmes questions. En fait, il y a un problème d'autorité de l'État et qui rejaillit évidemment sur la protection du patrimoine avec une incapacité simplement à dire et à faire appliquer, comme le disait Emmanuel, le droit. Et dans l'ensemble des dossiers que vous citez, ce qui manque en général... C'est pas tant l'argent, parce que finalement, ce sont pas des histoires. Il est pas sûr, d'ailleurs, que détruire une église coûte moins cher que de la restaurer. Voilà, Saint-Jacques d'Adville, vous l'aviez démontré, je crois. C'est pas forcément donc une question d'argent. C'est d'abord une question de choix et d'autorité de l'État. Et de dire simplement, à un moment donné, à Lyon, nous sommes en face de la première collection de textiles en France, une des plus grandes mondiales. Eh bien, il est du devoir de l'État de la protéger. Et de trouver un avenir qui soit, qui mette à l'abri et de ce patrimoine commun à tous les Français et peut-être là à toute l'humanité.
Alors un mot sur ce musée des tissus qui me préoccupe beaucoup. Oui. On parle actuellement de déménager les collections vers le musée des Confluences qui n'a pas la place pour l'accueillir, qui n'a pas la place pour la conserver, qui n'a pas le personnel pour le conserver. De vendre les deux hôtels, on sait qu'un industriel très connu dans le domaine du transport lorgne sur ses deux hôtels où sont conservées ces collections. Donc une collection qui risque d'être démantelée, qui risque d'être abîmée forcément parce qu'il n'y a pas la moyen de les conserver. C'est incroyable. Alors, il y avait une solution qui était la solution la plus logique, et vous la reprenez dans votre texte, c'était d'en faire un département du Louvre, décentralisé. C'est une solution qui n'a pas été retenue par la direction du Louvre ni par le ministère de la Culture. Il y a un problème au niveau de l'État qui est un problème à la fois de compétence et de courage, c'est ce qu'on vient de dire, et je ne suis pas certain que les solutions que vous proposez, mais nous y reviendrons tout à l'heure, soient forcément les meilleures. Mais ce musée des tissus est un exemple du fait que l'État démissionne complètement, et parce que c'est l'État qui a mis le musée des tissus dans cette situation. C'est schizophrène, l'État est schizophrène, non?
Dans cette histoire de musée des tissus, on assiste effectivement à la manifestation effectivement, de la faiblesse de l'État à inventer des solutions pour un patrimoine dont personne ne peut dire qu'il n'est pas un patrimoine national.
International.
Et même international.
Une pétition énorme, tous les savants internationaux.
Tous les savants, et puis il faut avoir été au musée des tissus une seule fois pour savoir à quel point c'est un musée extraordinaire. Alors, pourquoi le Louvre n'intervient pas et pourquoi cette solution n'a pas été retenue? Eh bien, je pense que là, au-delà de la question du Louvre, qui a déjà beaucoup de problèmes de fonctionnement à traiter au jour le jour, et il y a vraiment une question de décision et de choix du ministre. C'est-à-dire que si le ministre décide que c'est une collection nationale, qu'il faut la protéger, et que ça peut être un grand projet fédérateur pour le Louvre, eh bien écoutez, les moyens suivront. Je pense que le problème d'un certain nombre d'établissements publics face à de telles propositions, c'est qu'ils se disent, j'ai déjà tellement de problèmes au quotidien, je ne vais pas en plus me charger d'un problème supplémentaire. Ce qu'il leur faut, c'est une vision qui soit portée par le politique, vous le disiez, et qui dise, ben, ça en vaut vraiment la peine, on y va, et on essaiera de faire au mieux, évidemment, dans l'économie la plus restreinte possible, et en essayant de faire avec ce que l'on a. Mais il ne faut pas, au prétexte des moyens, des difficultés de fonctionnement des établissements publics, qui sont réelles, il ne faut pas le nier, renoncer à toute ambition, surtout quand il s'agit de choses tout à fait fondamentales. On ne parle pas, là, d'une collection secondaire. C'est une collection d'importance première.
Vous avez parlé également dans votre livre de la loi patrimoine. D'ailleurs, François de Mazière en parle également, et tout le monde s'accorde. Quand j'entends la ministre dire que dans l'avenir, on reconnaîtra ça comme une grande loi, personne ne pense une seule seconde, en tout cas parmi les gens qui connaissent un peu le patrimoine, que c'est une grande loi. C'est une loi où on a réussi à éviter, malgré la loi, le pire. Vous êtes d'accord avec ça ?
Je crois que la prudence impose peut-être d'attendre quelques années pour juger des effets de cette loi. Il y a un certain nombre de points positifs qui ont été soulignés, comme la possibilité de protéger des ensembles mobiliers.
Pour le moment, j'en ai pas vu un seul protéger ensemble.
Non, mais je crois qu'un certain nombre de services de DRAC travaillent assez sérieusement sur des dossiers importants. C'est vrai qu'on a eu l'impression, là encore, d'un ministère un peu faible. Vous voyez, ce projet de loi qui devait à l'origine être voté en 2013 pour fêter le centenaire de la loi sur les monuments historiques, qui a traîné pendant des années. Plusieurs ministres ont récupéré ce dossier, les services se sont fatigués, et finalement, on a obtenu un texte qui ne paraît pas si fondamental que ça, qui est fait un peu de briques et de brocs. Je me souviens d'une assemblée générale de la demeure historique au cours de laquelle intervenaient plusieurs personnalités de la direction générale des patrimoines, et où en effet les discussions étaient un petit peu laborieuses parce que personne ne voyait bien en quoi cette loi était une grande loi. Bon, l'avenir dira si le ministère a su l'utiliser au mieux.
Ce que l'on peut peut-être ajouter, c'est que les difficultés à faire aboutir cette loi, à faire prendre en compte le point de vue de la culture dans les arbitrages interministériels montre bien que la culture n'est plus un sujet central de la vie politique de notre pays. Et que pour le Premier ministre, il n'est pas essentiel dans un arbitrage de faire prévaloir le point de vue de la culture sur les autres parties en présence. Alors, ça pose, encore une fois, et on y reviendra, je pense, la question de la place de la culture au sein de l'État et de l'absence aussi de réflexion un petit peu interministérielle sur cette question. Vous parliez des éoliennes. On pourrait parler en général de tout ce qui a trait au développement durable. Le patrimoine devrait être une des parties d'une politique de développement durable.
Alors effectivement, on va y revenir là-dessus parce que j'ai prévu en fait de suivre un peu votre livre et vous dans votre livre vous
revenez là-dessus.
Vous revenez là-dessus. Qu'est-ce que doit garder le ministère de la Culture? Qu'est-ce qu'il doit reprendre aussi? Parce que clairement, si vous enlevez des choses du ministère de la Culture, vous lui rajoutez des choses, ce qui fait qu'il ne s'ennuiera pas demain si on suivait vos recommandations. Il y a une chose qui par exemple me gêne, peut-être parce que vous êtes archiviste et conservateur des archives, Emmanuel Pénicaud. Vous dites, il faudrait qu'on, en gros, on lit votre livre, il faut vraiment aller réquisitionner tout ce qui passe en vente des archives publiques. Or, c'est un point sur lequel je ne suis personnellement pas d'accord, je vais vous expliquer pourquoi et vous me répondrez. Il se trouve que, par exemple, pour les plans d'architecture, il y a eu beaucoup de premiers architectes en France, des architectes du roi en tout cas, qui normalement, alors théoriquement, c'est la théorie, tout ce qui est sorti de leur atelier appartient finalement à l'État et doit être réquisitionné par l'État. Or, tout le monde sait que même à l'époque, ils pouvaient faire des plans qu'ils pouvaient en donner eux-mêmes, qu'ils pouvaient les céder à leur famille, etc. Même peut-être que ce n'était pas très légal à l'époque, mais on parle du XVIIe siècle, on parle du XVIIIe siècle. Et maintenant, prévoir ce que de temps en temps les archives font, d'aller réquisitionner un dessin fait par Jules Ardouin Mansart sous prétexte que c'est un dessin pour un bâtiment public qui est du XVIIIe ou XVIIIe siècle, et de passer dans le privé, ça fait quoi? Ça fait que le marché, il faut quand même penser aussi, le résultat par rapport, c'est que c'est excessif à mon avis. D'ailleurs, on ne demande jamais, les conservateurs du musée ne vont pas demander qu'un dessin de Lebrun pour la Grande Galerie soit réquisitionné. C'est à peu près la même chose, parce que finalement, un dessin de Lebrun pour la Grande Galerie était fait pour le roi également, et on peut considérer que même s'il est sorti avant que le fonds Lebrun soit réquisitionné pour le Louvre, il est sorti avant. Donc, je ne comprends pas très bien cette volonté de tout réquisitionner. Vous savez pourtant que je suis pour l'inaliénabilité, etc. Mais je pense qu'il y a un moment de date où il faut pas aller trop loin. Et dans votre livre, alors vous parlez des archives napoléoniennes. Je connais pas bien le cas de ces différentes archives. Peut-être que dans certains cas, il y a eu une distraction globale d'un fonds global. Mais je pense qu'il ne faut peut-être pas être trop excessif sur ce point. C'est un point de désaccord avec vous, Emmanuel Napolitano.
Alors, on ne parle pas de... C'est un sujet extrêmement intéressant et qui a fait l'actualité juridique du monde des archives depuis 15 ans. Alors, on ne parle pas de réquisition, on parle de revendication. Pour moi, ce qui est très intéressant dans cette politique de revendication, c'est qu'on a affaire là à une administration qui a le courage d'appliquer les textes en vigueur, de les appliquer avec cohérence, hein, disons-le, osons le mot, et évidemment aussi avec un esprit d'équilibre. Que dit la loi ? La loi fait la distinction, et on n'en a pas trouvé d'autres jusqu'ici, sauf à ce que la loi change, entre les archives publiques et les archives privées. La loi est très claire. Sont privées les archives qui ne sont pas publiques. Sont publiques les archives produites par des agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. On est bien d'accord. La loi ne fixe pas d'antériorité. Nous sommes bien, bien d'accord. Alors, le rapport de la loi au temps est toujours une question juridique assez complexe, hein, mais la loi ne dit pas, à partir de 1789, on fait la distinction entre archives publiques et archives privées, ou bien à partir de 1958, ou que sais-je. Bon. Pourquoi est-ce que ces affaires sont venues sur le devant de la scène? Il faut aussi faire un petit peu d'histoire. Tout au long du XXe siècle, il y a eu des revendications, il y a eu des mises en vente ou des tentatives de mise en vente de fonds d'archives complets. Je reviendrai sur les éléments, les pièces isolées. Jusqu'à la fin du XXe, dans l'ensemble, ces affaires se sont toujours réglées à l'amiable, tout simplement. On se doute que derrière ces histoires, il y a toujours évidemment des affaires d'argent, donc des propriétaires qui souhaitent gagner un petit peu d'argent avec leurs archives, qui ne sont pas forcément insensibles à la qualité historique ou patrimoniale de ces archives. Et voilà, jusqu'à la fin du XXe siècle, l'administration des archives avait pour habitude de discuter sans remettre en cause le caractère public de ces archives, hein, le cas échéant, d'indemniser éventuellement les propriétaires. Bon. Le marché des autographes, vous le savez, depuis 20 ans, s'est envolé, a pris une valeur assez spectaculaire.
En partie grâce à cause d'une escroquerie qui va être jugée bientôt. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi.
Absolument, voilà, ça avait commencé un peu avant, parce que l'escroquerie s'est nourrie aussi un petit peu de cette affaire, et un certain nombre de commissaires-priseurs ont commencé à avoir des pratiques assez peu recommandables, c'est-à-dire d'aller tout simplement, là aussi, fouiller dans les greniers des particuliers, leur faire valoir que le moindre papier valait de l'or, et faire monter, souvent un petit peu artificiellement, le marché. L'administration a réagi, a relu les textes qui la régissent, et du coup a dû rappeler, parfois un peu brutalement, mais avec franchise et sans se cacher, l'administration elle ne fait jamais que appliquer la loi, et la loi, nul n'est censé l'ignorer, l'administration a dû rappeler ses principes pour éviter que, là encore, des fonds d'archives entiers partent à l'encan, soient dispersés, et vous savez qu'un fonds d'archives dispersé en vente, c'est un fonds d'archives qui est perdu pour la science, pour la culture, pour le patrimoine, puisqu'il est éparpillé aux quatre coins du monde. Naturellement, le marché, ou plutôt peut-être des commissaires un peu malveillants, des experts qui parfois gagner de l'argent sur ces affaires sont montés au créneau, sont allés devant le tribunal, et il y a eu plusieurs affaires contentieuses, donc alors que jusqu'ici on n'avait jamais eu de contentieux en la matière, dont une qui a duré 14 ans et qui vient tout juste de s'achever ou qui est en passe de l'être, et où le juge a reconnu cette qualité d'archives publiques à des archives produites par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà. Le juge s'est prononcé sur des cas particuliers, en général sur des papiers d'une part très précieux, des brouillons du général de Gaulle, considérés comme très précieux pour l'histoire de France, je m'entends, des brouillons du général de Gaulle, des brouillons du maréchal Pétain, des fonds entiers d'archives militaires de l'Empire. Pourquoi particulièrement des archives militaires de l'Empire ? Parce que c'est une époque où, justement, la geste impériale a une valeur historique. La geste impériale a une valeur historique et patrimoniale indéniable. parce que quand il s'agit de dessin, on sait bien que ce début du 19e siècle est un âge où les architectes et les dessinateurs, notamment du génie militaire, ont un grand talent, et parce que aussi il y a un marché et une clientèle de grand appétit pour ces archives. Donc bien souvent les affaires se sont focalisées sur cette période impériale. Je rappelle quand même que le Code du patrimoine n'a fait que codifier une législation antérieure, et pour reparler donc de cette extension dans le temps de la loi, on trouve des revendications d'archives publiques, entre guillemets, même si évidemment le terme n'y est pas, à partir du début du XVIIIe siècle, et on trouve notamment dans la législation militaire des circulaires et des ordonnances à partir du milieu du XVIIIe siècle qui font très expressément la distinction, alors non pas entre archives publiques et archives privées, mais en tout cas entre papiers de fonction et papiers qui ne sont pas de fonction. Donc là encore, le Code du patrimoine et la loi sur les archives n'ont pas inventé un droit que l'État se permet comme ça d'appliquer de façon incohérente, elles n'ont fait que codifier des pratiques antérieures qui étaient parfaitement claires, et c'est ce que le juge a reconnu dans toutes les affaires qui lui ont été soumises.
Alors, moi je parlais plutôt pas forcément d'ensemble dont on peut considérer effectivement ce sont des ensembles d'archives créés par l'État, pour l'État, etc., et qui devraient être publics. Je pense à des exemples, je ne les ai pas en tête, mais je sais qu'il est très difficile pour un dessin d'un architecte, même des pièces isolées, qui ne font pas partie d'un fonds d'archives, d'être vendues en France sans avoir le risque d'être revendiqué, c'est le terme que vous employez, d'être revendiqué. Résultat, vous savez bien ce qui se passe quand on applique de manière extrême ce type de loi. Eh bien, un dessin, ça sort facilement, ça sort en France. Et moi, j'ai vu, par exemple, aux États-Unis, passer des dessins de... C'était récemment, et je ne me rappelle plus l'artiste, peu importe, mais je pense que c'était des choses publiques. 5 ou 6 ou 10 dessins, alors là, c'était peut-être un fonds. Et en plus, l'État n'est pas cohérent toujours, puisque des fois, il réclame, des fois, il ne réclame pas. Et ce que je vous disais, par exemple, sur un dessin de Lebrun, donc un dessin pour la Grande Galerie de Lebrun, vous devez considérer que c'est des archives publiques. Or, ça n'est pas réquisitionné, à mon avis, à raison. Je pense qu'il y a, quand même, malgré tout, application de 2 poids, 2 mesures, et deuxièmement, un risque de faire fuir les pièces, donc c'est ce que vous ne voulez pas, hors de France. Alors, c'est différent, je pense, pour effectivement des fonds entiers qui auraient été distraits de manière, évidemment, illégale, au cours du 19e siècle, par exemple. Mais quand on parle de dessin isolé ou de dessin d'architecture ou de dessin isolé du 17e ou 18e, ça me paraît plus discutable.
Alors, pour régler ces questions, qui en effet sont difficiles, et on voit bien que la distinction entre un fonds cohérent et des pièces isolées, elle est très difficile à établir, et évidemment, elle ne relève pas de la loi. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds cohérent? Et vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on commence à 2 dessins, 10 dessins, 100 dessins? Je ne sais pas. Alors, c'est le bon sens. Qu'a fait la direction des Archives de France? Elle a entamé, il y a 2 ans, un travail de fond avec le Conseil des ventes volontaires, donc qui représente l'ensemble des commissaires priseurs, et elle a publié, il y a 4 mois, un petit vademécum de la revendication, qui explique très clairement les droits et les devoirs de chacun, de chacune des parties. Il ne faut pas faire d'angélisme, hein. Tous les commissaires priseurs ne travaillent pas par amour de l'art, hein. ce n'est pas tout à fait
Ils doivent vivre aussi.
Voilà. L'administration, j'allais dire, elle a parfois ses fragilités, elle sait bien qu'elle ne peut pas d'un coup revendiquer la totalité des archives publiques qui sont sur le marché. On sait qu'il y a des autographes qui sont à l'évidence des archives publiques et qui ne sont pas revendiquées. En revanche, l'administration fait en sorte de conserver le droit pour elle, toujours dans cette idée de préserver le patrimoine français. Un commissaire priseur doit envoyer son catalogue de vente à la direction chargée des archives de France dans un délai raisonnable avant la vente. À ce moment-là, il relève de l'administration s'il y a des pièces litigieuses ou compliquées. C'est le rôle de l'administration que de prendre contact avec ce commissaire-priseur, qu'une discussion puisse s'établir, et ainsi on aura abouti à l'amiable, à une solution qui conviendra aux deux parties. Mais je préfère, encore une fois, que le droit reste du côté de l'administration et que celle-ci puisse afficher son pouvoir régalien de préservation du patrimoine, quitte ensuite à discuter sur des cas litigieux.
Alors, nous avons fait un... C'est pas vraiment un aparté, parce que c'est dans votre livre, absolument. Donc je pense que c'est important,
oui,
et on a le temps dans ce type d'émission de débattre. Une autre proposition sur laquelle, alors je me retourne vers Charles, même si vous n'êtes pas conservateur, donc Emmanuel, vous pourrez intervenir évidemment sur ce point aussi, comme sur tous les points d'ailleurs, si vous voulez préciser des choses, mais il y a aussi une autre proposition que vous faites, qui là me paraît effectivement... intéressante, et une autre un petit peu moins, c'est par rapport aux conservateurs, à l'INP. Donc vous vous intéressez à l'INP, l'Institut National du Patrimoine. Donc déjà, vous ne vous interrogez pas sur la pertinence de garder un concours de conservateur. On est le seul pays au monde, je crois, où il y a un concours de conservateur. Est-ce que c'est une bonne solution? Je pense que même certains conservateurs ne sont pas complètement persuadés que ce soit une bonne solution. Ça veut dire que finalement on a le concours. Moi, on connaît tous des très 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 bons citoyens d'art qui feraient d'excellents conservateurs, mais qui n'ont pas le concours parce que ce ne sont pas des bêtes à concours. Mais il y a des gens qui passent le concours parce que ce sont des bêtes à concours et qui n'ont pas forcément toutes les qualités de votre conservateur. Ça, on en voit. C'est le cas. Je pense qu'il faut le dire. Est-ce que aux États-Unis, les conservateurs sont moins bons alors qu'il y a beaucoup, par exemple, de Français qui n'ont pas le concours en France et qui vont aux États-Unis pour devenir conservateurs et qui sont d'excellents conservateurs? J'en ai plein d'exemples en tête. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il faut conserver le concours? Vous ne l'abordez pas. Moi, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Ensuite, non seulement vous ne proposez pas de supprimer le concours, mais vous demandez en plus du concours, que chaque conservateur ait un doctorat. Alors d'abord, il faudrait parler de quel doctorat il s'agit, parce que le doctorat tel qu'il a été récemment réformé n'est plus vraiment de doctorat que le nom. Bon. Et deuxièmement, est-ce que c'est vraiment nécessaire que tous les conservateurs aient un doctorat? J'en suis pas sûr. Moi, je connais des très bons chercheurs, des très bons universitaires qui sont d'épouvantables conservateurs, parce qu'un doctorat, ça prouve qu'on s'est cherché, ça prouve pas qu'on s'est conservé et qu'on met la main dans le cambouis, entre guillemets, comme il faut le faire quand on est conservateur. Et troisième chose, en revanche, je vous dis une chose qui me paraît très juste, c'est qu'il y a un problème de deux corps pour les conservateurs, des conservateurs d'État et des conservateurs territoriaux. C'est compliqué, enfin, ils peuvent passer de l'un à l'autre, mais que ça n'est pas du tout fluide, et qu'il serait peut-être plus simple d'avoir un seul corps, et que peut-être l'État devrait prendre en charge l'ensemble des conservateurs, ce qui donnerait une certaine cohérence à tout cela. C'est sur tous ces points-là, sur la conservation et la formation des conservateurs et leur statut, que je voudrais vous interroger.
Je trouve que il serait un peu paradoxal, pour une fois qu'en France, on a un corps de grande qualité, formé dans de bonnes conditions, même si des évolutions peuvent être possibles, sous prétexte que quelques personnes ne rendent pas compte de cette excellence dont je parle, pardonnez-moi le propos, mais de jeter le bébé avec l'eau du bain et de considérer qu'il n'y a plus besoin de ce corps de conservateur. Non, je pense...
Non, je ne parle pas de corps conservateur. Il pourrait très bien avoir un corps de conservateur, simplement de ne pas avoir forcément un concours.
Ah, je pense que, le principe quand même de la fonction publique en France, c'est le recrutement par concours, qui garantit, avec les limites que l'on sait et que vous avez rappelées, qui garantit malgré tout une certaine égalité de traitement entre les candidats. Moi, je serais plutôt, et là, vers un assouplissement de certaines conditions d'intégration.
Je vais prendre un exemple, je
pense que je vais répondre à, parce que j'imagine l'exemple. Il peut y avoir de très bons historiens d'art. Et qui aurait tout à fait vocation à exercer des fonctions de conservateur. Il y a aujourd'hui des mécanismes par le passage devant une commission scientifique que cela puisse se faire. C'est compliqué. Je pense qu'on peut l'assouplir sans pour autant mettre à bas le mécanisme de concours qui est quand même... Malgré tout, vous savez, c'est un débat qui se pose pour tous les corps de la fonction publique. L'ENA, on dit, ça forme des gens, etc. Ceci dit, on n'a pas trouvé mieux que le concours. Donc, en l'absence de meilleurs systèmes, je pense que c'est quand même le moyen de recruter. Il se trouve que quand on parle avec les gens qui ont fait partie et vous l'avez fait certainement, du jury du concours de l'INP, ils ont quand même une grande liberté de choix, j'oserais dire, puisqu'ils ont en face d'eux des candidats de qualité en général excellente. Et donc, il peut évidemment y avoir quelques erreurs de choix, mais globalement, on a des gens de très grande qualité qui sont appelés à servir comme conservateurs au sein des corps de l'État.
J'allais dire que, par exemple, pour le directeur des patrimoines, il n'y a pas besoin de concours. Bon.
Il y a eu un concours au début en général, même s'il appartient aux politiques, effectivement, de choisir. Mais c'est une autre logique.
Alors, je reviendrai sur cette question du doctorat, si vous voulez. Oui. Alors, on a mis doctorat ou équivalent dans le livre.
C'est vrai, doctorat ou équivalent.
Doctorat ou équivalent. Thèse ou travail de recherche approfondie, je dirais. Qu'est-ce que nous avions en tête? C'est de garder à ce corps de conservateurs une valeur scientifique éprouvée. Vous l'avez dit, on peut faire entrer dans un corps des gens qui sont des forts en thème, des bêtes à concours, voilà. Il nous semble important de garantir que ce corps des conservateurs ait toujours une capacité à rechercher, une capacité à écrire, une capacité à produire, et du coup de veiller au cours de... Alors, sinon au moment du concours, au moins au cours de la scolarité, à, j'allais dire, voilà, encourager au maximum les élèves à approfondir eux-mêmes, de façon personnelle, individuelle, des thèmes de recherche, des sujets de recherche.
Voilà. Non, effectivement, dans ce cas, ça peut vouloir dire faire une exposition qui compte avec un catalogue, un gros catalogue sur un sujet. Donc ça me va effectivement. Ça me va. Donc c'est tout à fait effectivement le doctorat. C'est ce que font la plupart des très bons conservateurs, et il y en a. Mais alors, ce qui est pas aussi un problème, c'est que il y a des très bons conservateurs. Je pourrais citer des noms, je ne le ferai pas. Mais ces très mauvais conservateurs, bah, le problème, c'est qu'ils sont fonctionnaires, ils ont eu un concours, et donc ils sont là ad vitam aeternam. Ça pose problème aussi, quand même, ça.
Est-ce qu'il y a des mauvais historiens de l'art ? Il y en a aussi.
Il y a des mauvais historiens de l'art, bien sûr. Mais dans un, par exemple, aux États-Unis, si vous avez un très mauvais conservateur, il peut éventuellement être viré. En France, non.
En France, on ne lui donnera pas de responsabilité. Là encore.
Ah, aussi, je connais des noms très mauvais conservateurs qui ont des très grandes responsabilités.
Là encore, on fonctionne sur un système de corps de la fonction publique, hein, que vous connaissez, qui a ses qualités et ses défauts, qu'on essaye quand même, il faut le reconnaître. Hein, l'administration s'efforce de réformer sa fonction publique. C'est toujours laborieux parce qu'on parle de 5 millions de personnes. Mais il y a l'ensemble des grandes écoles aujourd'hui, l'ensemble des corps depuis 10-15 ans se sont beaucoup ouverts.
Parlons des corps, justement, les corps des conservateurs. Voilà. On n'a pas parlé des corps conservateurs. Voilà. Est-ce qu'il faut garder territoriaux ou nationaux ? Vous dites que non et je pense que vous avez raison.
Alors, en effet, ce qu'on constate, hein, quand on regarde ce paysage administratif entre guillemets des conservateurs, c'est cette distinction entre le corps des conservateurs territoriaux, donc qui relève de la fonction publique territoriale, une des trois grandes parties de la fonction publique française, et le corps des conservateurs nationaux. Il nous semble, nous, alors même si je sais que les passerelles sont possibles et qu'on s'efforce de les encourager, il nous semble que ces deux corps sont suffisamment petits en taille pour qu'on puisse concevoir de les fusionner. Ça faciliterait les passages des postes en province aux postes parisiens, ça faciliterait les prises de responsabilité, ça enlèverait cette charge de gestion aux collectivités locales qui bien souvent ne sont pas outillées pour recruter un conservateur et en tout cas juger de la politique culturelle menée par un conservateur. Il nous semble que là, sans grande conséquence financière, l'État pourrait dire, voilà, j'ai des conservateurs du patrimoine, un corps scientifique, un corps très spécifique, je prends l'ensemble de ce corps à ma charge, qu'il soit en fonction dans les différentes régions ou qu'il soit en fonction à Paris, j'assure leur formation de façon uniforme et je fais en sorte que au sein de ce corps, les circulations soient possibles, les différentes prises de... Les différentes fonctions, les différentes missions de responsabilité, ou plutôt au contraire de recherche scientifique, soient possibles successivement dans une carrière. Voilà, tout ça nous semble de l'ordre du possible.
Je crois qu'Emmanuel peut préciser, mais ça existe dans le monde des archives.
Et ça existe dans le monde des archives. Alors, le monde des archives, voilà, qui est un peu à part. Alors, il y a également des conservateurs territoriaux d'archives, mais il y a un système de décentralisation intelligente, entre guillemets, dans les archives, mis en place dans les années 80, où l'ensemble des directeurs d'archives départementaux sont des fonctionnaires de l'État mis à disposition des conseils départementaux. Et finalement, c'est une solution qui satisfait tout le monde. À la fois les conseils départementaux n'ont pas à rémunérer un conservateur, ce qui peut peser au niveau local sur des budgets de plus en plus restreints. L'État est heureux, lui, de pouvoir assurer une politique nationale des archives. Les conseils départementaux eux-mêmes prennent à charge les bâtiments et l'ensemble des personnels de l'équipe. Donc là aussi, il y a bien un partage des charges dans les archives. Ce modèle, depuis 30 ans maintenant, 30 ans, bientôt 40, satisfait tout le monde et personne ne songe à le remettre en cause.
Sur les conservateurs, toujours, il y a une autre proposition que vous n'avez pas citée, qui est que les conservateurs puissent, à un moment de leur carrière, repasser par l'Institut National du Patrimoine.
Bien sûr, pour directeur.
Voilà, c'est ça, pour exercer des fonctions de direction.
Je l'avais écrit plusieurs fois, effectivement. Voilà. Je pense que c'est nécessaire, aux États-Unis ça se passe, etc. Oui. Et quand on voit certains conservateurs passent directeur et qui sont totalement incapables de passer directeur, les lecteurs de la Tribune de l'Art sauront à qui ou à quoi je fais allusion. Je pense que ce serait nécessaire.
Oui, et je crois que l'Institut National du Patrimoine est en train de mettre en place des premiers modules de quelque chose qui approcherait de ça. Donc on a une évolution positive de ce point de vue.
Un autre point, c'est intéressant parce que vous êtes conservateur à la médiathèque du patrimoine. J'étais hier à la médiathèque du patrimoine où j'ai vu des gens très compétents qui m'ont. En plus, c'est un bâtiment formidable qui est malheureusement un peu excentré de Paris. C'est quand même pas facile d'y aller. Heureusement, mon bureau est sur la ligne. Donc, je fais, peut-être que vous le savez ou non, une base de données des œuvres dans les monuments publics, notamment dans les églises. Donc, j'ai décidé d'y aller pour la première fois. J'étais allé il y a très longtemps, mais c'est tellement loin que c'est vrai que, voilà. Donc là, j'ai passé du temps. J'ai vu quelqu'un qui m'a présenté comment ça fonctionnait, c'est vraiment formidable, mais on a l'impression quand même qu'ils ne sont pas très nombreux. Et on voit les dossiers qu'ils accumulent, donc il y a un problème de moyens donnés par l'État. Là, on revient peut-être aux moyens donnés par l'État sur des choses essentielles, par exemple tout ce qui est documentation, etc. Et puis, on a regardé les bases ensemble, et moi, les bases de données du ministère, je les connais bien, et ça, vous les critiquez, ces bases de données du ministère. Elles sont très utiles, évidemment, et c'est fait avec beaucoup de dévouement par des gens très compétents, mais qui font avec les outils qu'ils ont. Est-ce qu'il serait quand même temps un peu de revoir toutes ces bases, l'articulation de ces bases? Vous dites qu'il y a des bases, effectivement, qui se déroulent dans certaines régions, on reviendra au problème des régions, etc., de manière indépendante, dans certaines régions oui, dans certaines régions pas, enfin vraiment, pour savoir ce qu'il y a dans une église en France, c'est pas très simple, et puis c'est pas très facile d'interroger, donc ça c'est un constat que vous avez fait vous-même, donc vous avez pu le faire si vous êtes à la médiathèque du patrimoine, si vous avez en charge en partie ça.
Oui, tout à fait. Alors, sur la question des effectifs et des personnels, là, je ne dirai rien parce que...
Un devoir de réserve, peut-être.
Non, c'est pas une question de devoir de réserve, mais on sait bien que la fonction publique aujourd'hui est plutôt en phase de restriction budgétaire, quel que soit le pouvoir politique, qu'on demande à chacun de faire des efforts, et je considère déjà remarquable que l'État puisse mettre à disposition des citoyens un petit centre, puisqu'on parle de la médiathèque, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres, un petit centre de conservation uniquement dédié au patrimoine. Architectural.
C'est quand même le moindre déjà... des choses dans un pays, enfin, il me semble-t-il.
Je considère que c'est déjà beaucoup. Pour cette question de l'intendance informatique, qui en effet ne suit pas, là encore, on revient à un problème structurel du ministère, qui est que le ministère peine à mettre en place les systèmes informatiques adaptés à ses besoins et aux besoins de ses concitoyens. Les bases du ministère, vous les connaissez, hein, nos auditeurs les connaissent peut-être aussi, les fameuses bases Mérimée, les fameuses bases Palissy, Mémoire, etc. Ce sont des bases d'une très grande richesse qui fonctionnent sur un système informatique qui a aujourd'hui près de 40 ans, qui est moribond.
Ceci, c'était extraordinaire d'avoir ça à l'époque, c'est-à-dire qu'il faut quand même reconnaître...
Absolument.
Qui avait vraiment un caractère précurseur du ministère de la Culture en France, ça il faut le dire, sur les bases de données. Il n'y avait pas l'équivalent étranger. C'est vrai que ça n'a pas bougé depuis 40 ans.
Et ces bases ont été conçues de façon remarquablement intelligente à la fin des années 70. Le ministère a été précurseur. Là, le ministère, j'allais dire, a péché par défaut d'initiative, par défaut d'énergie et par défaut de moyens donnés à ses services informatiques. Alors, là encore, je ne jette la pierre à personne. Comme vous l'avez dit, ces bases sont tenues bien souvent par des gens extrêmement dévoués, par des gens rarement soutenus au niveau général du ministère. Il y a un problème général dans la fonction publique pour attirer des bons informaticiens. Ça, c'est connu. Le ministère de la Culture est un petit ministère aujourd'hui, donc les projets informatiques y ont moins d'ampleur qu'ailleurs, hein, c'est mécanique, donc les bons informaticiens, entre guillemets, ne sont pas forcément attirés par le ministère de la Culture. Là, on parle de problèmes très, très basiques.
Ça peut aussi être externalisé pour un projet, de faire le projet... Sans avoir forcément...
Pour monter un projet, il faut le piloter, et pour ça, il faut quand même avoir de bons ingénieurs en informatique, et la sous-direction des services informatiques est en déficit chronique de personnel. Il y a un effet structurel, il y a probablement un effet de volonté politique, et c'est vrai qu'on regrette parfois qu'il n'y ait pas une impulsion qui vienne du ministre et du cabinet, et qui dise, écoutez, voilà, là, il y a des bases qui ont 40 ans, il est grand temps de les moderniser, on y met un peu d'argent, on y met quelques chargés de mission, et comme ça, les choses iront mieux.
Alors, on ne pourra pas parler de tout, parce que je vois le temps qui avance, même si on va faire peut-être plus d'une heure, si ça vous va, on a encore 20 minutes, peut-être, pour parler, parce que votre livre, encore une fois, est très riche, et il y a beaucoup de choses. Alors, très rapidement, deux ou trois sujets que je n'aborderai pas, que je cite quand même, parce que je les ai notés. Si jamais vous voulez vous arrêter, vous pouvez le faire. Parler de la dictature de l'événement sur le... Mais là-dessus, vous avez une solution qui n'est pas forcément la mienne. Mais en revanche, il y a certaines solutions qui me paraissent convenir, par exemple, d'être moins cher, de pouvoir prendre toujours des metteurs en scène ou des scénographes très coûteux, alors que de temps en temps on pourrait faire ça plus simplement. Moi je prends l'exemple au Musée des Beaux-Arts de Nancy, où la mise en scène était remarquablement faite notamment par Charles Villeneuve-Gentil, le conservateur, le directeur du musée, avec les équipes internes. Ça arrive aussi à Rennes aussi, donc on fait des fois des choses. Ils arrivent à faire beaucoup d'expositions finalement, par exemple à Rennes, alors que ce sont des moyens souvent internes. Donc ça c'est...
Moi, je suis très intéressé par le lien que vous citez Rennes, vous citez Nancy, moi je citerai Rouen aussi, le lien qui est fait entre événements et collections permanentes. Je trouve qu'on a tendance à opposer exposition temporaire et exposition permanente. Le système d'accrochage des collections permanentes sur des thématiques renouvelées qui est en vigueur à Rouen. D'ailleurs, je crois que vous en aviez dit du bien,
on dit beaucoup de bien, oui.
dans la tribune. Me semble un exemple à suivre. Ça permet de renouveler le regard sur des collections permanentes, d'attirer le public vers des collections permanentes, sans céder pour autant à des sirènes qui sont parfois trop coûteuses, à la fois pour les établissements publics nationaux, mais aussi pour les collectivités territoriales.
Vous parlez de réutilisation de décors également, ça pourrait de temps en temps, alors vous dites qu'on ne peut pas les stocker, je pense qu'il y a des musées qui ont des caves et qu'on peut les stocker entre deux expositions, enfin bref, il y a des choses qui peuvent être faites. Vous parlez aussi de ce qui est une bêtise, et je pense aussi que c'est une bêtise de plutôt que de s'intéresser au musée, de dire bah, les œuvres, on va les mettre partout, dans les entreprises, etc. Bon, on ne reviendra pas là-dessus, vous en parlez dans votre livre. Vous parlez également... Ah oui, alors ça c'est un point sur lequel... Alors ça va faire sans doute, je pense, la transition avec l'autre partie du sujet qui représente tout ce que le ministère de la Culture doit garder ou qui doit passer à d'autres, la répartition entre les différentes collectivités territoriales. Vous dites, vous avez plus haut dans votre livre, vous avez parlé de l'exemple de Gravelotte, du musée de Gravelotte. Et vous dites que, en fait, on a parfois, il y a des projets qui sont lancés, et puis finalement, après, on s'aperçoit 3-4 ans après, 5 ans après, que ça coûte de l'argent, on est obligé de les fermer. Et vous prenez cet exemple de Gravelotte comme exemple. Ce n'est pas un bon exemple, à mon avis. Pourquoi ? Parce que le musée de Gravelotte a été lancé par un président de conseil général qui estimait que il fallait faire que ce musée avait un sens. D'ailleurs, il existait un petit musée, il a voulu l'agrandir, il a fait un très beau musée, un très bel outil, etc., qui a une fréquentation qui n'avait pas à rougir et qui en plus permet quand même, je pense, on ne peut pas non plus mettre tous les grands musées dans les grandes villes parce qu'après, dans la campagne, il peut y avoir aussi des gens il y a un bassin de population qui peut venir aussi voir un musée. Donc ce musée était extrêmement bien fait, extrêmement bien tenu, avec des conservateurs comptables, etc., avec beaucoup d'acquisitions. Et vous dites ensuite, on s'aperçoit que ça coûte trop cher, on le ferme. Non, on ne s'aperçoit pas que ça coûte trop cher, on le ferme. J'ai pu montrer aussi dans mon article que le coût n'est pas excessif, loin de là, que le Conseil général ait tout à fait la possibilité de continuer à le faire, simplement qu'on ait à quelqu'un d'éclairé, un président de Conseil général éclairé est arrivé à un président de Conseil général pour lequel les musées s'en fichent complètement. C'est quand même la majorité des hommes politiques. Donc simplement, il dit, voilà, ça me coûte trop cher. Alors ça ne coûte pas trop cher, simplement ça coûte trop cher par rapport à ce qu'il voudrait faire à côté, qui justement, là, ne relève pas du tout, en plus, dans bien des cas, comme construire un grand stade, je ne suis pas sûr que ça relève de la gestion d'un département, on pourra en discuter de toute façon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne coûte pas trop cher. Donc ça, c'est pas un bon exemple. C'est pas parce que ça coûte trop cher qu'on le ferme, c'est parce que... Non, c'est vraiment pas pour ça. C'est parce que arrive au Conseil général, président du Conseil général, quelqu'un qui n'a pas de culture, qui se fiche des musées, et qui dit, bah oui, ça coûte trop cher, parce que ça coûte un peu d'argent, ça coûte toujours un peu d'argent, bien entendu. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, et donc vous dites, une solution, ça pourrait être parfois un petit musée. On peut très bien le fermer, parce que ça coûtera moins cher, mais alors on appellera pour aller le visiter, etc. Non, on a vu dans certains exemples qu'un musée, par exemple à Gravelotte, il fermait pendant 6 mois. Mais pendant 6 mois, vous chauffez toujours le bâtiment. Vous avez toujours des personnes qui sont les gardiens pendant 6 mois que vous devez quand même rémunérer. Donc vous avez des coûts de fonctionnement qui ne sont pas bien inférieurs, pas beaucoup inférieurs à ce qu'ils sont. Un petit peu, mais pas beaucoup. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne solution de fermer le musée, ça. Et puis dire qu'on appellera, et puis dans ce cas-là, on viendra. Vous savez bien que des fois, vous ne pouvez pas préparer votre voyage. Vous arrivez dans un endroit, vous vous apercevez que c'est fermé, vous ne visitez pas. Alors vous l'auriez visité. Donc je ne pense pas que sur ces plans-là, l'exemple de Gravelotte et puis l'exemple de fermeture des musées, parce que ça coûtera moins cher, ça soit une bonne solution.
Moi, là-dessus, évidemment, dans un monde idéal, je suis d'accord avec vous. J'aimerais que, si je vais à n'importe quel endroit, partout sur le territoire français, mais aussi en Italie ou en Espagne, je puisse trouver ouverts les églises, les musées, les monuments, ce serait idéal. Je comprends quand même que dans un certain nombre de cas, des questions économiques, des questions de sûreté, des questions diverses peuvent amener à restreindre l'ouverture. Je trouve pas ça choquant quand il y a peu de visiteurs que l'on puisse le faire sur demande, sur rendez-vous, pendant des saisons moins fréquentées. Je pense quand même, je suis d'accord avec vous, il y a toujours des coûts fixes qui demeurent, mais je pense quand même qu'on peut réduire un certain nombre de coûts de cette manière, qu'il faut être pragmatique dans ce genre de cas, chaque cas est différent. Pour revenir sur Gravelotte, je me dis quand même que c'est un très bel établissement, vous avez raison, le sujet est intéressant, il y a eu des dépôts de première qualité, de collection nationale. Simplement, peut-être qu'avant de consentir de tels investissements, qui sont importants pour un département comme celui dont on parle, eh bien, il fallait s'assurer que ça ne tienne pas seulement sur la volonté politique d'un moment. Et vous savez, c'était que l'on consente à un moment à un projet parce que on aura la volonté de l'inaugurer, la volonté politique de faire valoir ce projet, c'est une chose. Ensuite, le faire fonctionner au jour le jour pour un département, en plus, qui a des, c'est le cas de tous les départements, hein, qui ont des dépenses sociales extrêmement élevées aujourd'hui et qui sont dans une large part étranglées par ces dépenses sociales, c'est une question qu'il faut se poser avant. Moi, ce que je regrette, c'est que dans ces cas-là, on ne se soit pas posé un peu la question de la soutenabilité à moyen terme de l'investissement.
Alors, je vous arrête tout de suite d'abord parce que la soutenabilité à moyen terme, vous préconisez en fait, effectivement, là on y vient, que les régions aient une responsabilité dans la culture, que l'État ait une responsabilité dans la culture, vous pourrez peut-être détailler ça. Ensuite, que les villes ou les agglomérations, les communautés de communes aient une décision d'un maire, ça sera exactement la même chose. Un maire peut très bien décider de faire un musée et puis son successeur de ne plus le faire. Donc, je veux dire, ce qui existe au niveau du département existe partout. Donc ça, je pense pas que ça soit un bon argument.
Si je peux me permettre, le cas du département est un peu particulier quand même, parce qu'il y a une crise de financement des départements aujourd'hui due à l'augmentation des affaires sociales et qui vient du fait que l'essentiel de l'action d'un département, c'est l'action sociale dans ses compétences. Donc on a une crise particulière qui ne touche pas la région et qui ne touche pas la commune parce qu'elles sont des compétences beaucoup plus larges.
C'est une crise qui est hors du fait que ce soit
communauté
de communes ou département ou région, et c'est quelque chose
qui s'est amplifié
largement depuis que ça a été pris, donc c'était pas prévisible. Donc je pense que le fait qu'on puisse changer de politique, ça peut arriver tout le temps.
Je pense aussi que dans ce genre de projet, il faut pas être... Vous savez comment sont conçus ce genre de projet, c'est-à-dire on trouve le sujet passionnant, et moi je suis le premier à dire qu'il était... Parce que c'est bien qu'il y ait un musée de la guerre de 70, enfin je trouve en plus c'est très intéressant sur le plan de l'histoire de l'art aussi, parce qu'il y a toute une floraison de représentations...
J'en parle d'ailleurs,
il y a toute une floraison de représentations de... picturale de cette guerre qui est particulièrement intéressante et qu'on retrouve d'ailleurs à l'exposition en ce moment sur 1870 au musée de l'armée. Donc ça, c'est vraiment le sujet, j'ai pas de doute. Simplement, le fait est, même si on peut être très satisfait qu'il y ait un musée à Gravelotte, le fait est que vous n'attirerez pas le même nombre de visiteurs à Gravelotte qu'ailleurs et que vous savez comment sont prises les décisions d'investissement dans ces collectivités territoriales. Elles sont parfois prises sur des bases qui sont un peu surélevés, où l'on estime que l'on va avoir beaucoup plus de visiteurs que l'on a en vérité. Dans ce cas précis, je regrette, mais je pense que la décision d'investissement a peut-être pas été assortie de suffisamment de réflexion sur la continuité possible d'un tel projet.
Parce que c'est vrai qu'on est toujours on n'est jamais à l'abri d'avoir un homme politique, et malheureusement de moins en moins, qui se désintéresse complètement de la question, et on est bien dans ce cas-là, parce que j'ai bien étudié la question, on est bien dans ce cas-là.
Oui, mais vous savez, je reviens encore là, toujours à ma marotte du départ, c'est-à-dire que les hommes politiques sont aussi le reflet des citoyens, hein, on le sait, et si les citoyens accordent une importance particulière à la culture, eh bien, les hommes politiques accorderont une importance particulière à la culture également. Je suis très optimiste et je veux l'être. D'ailleurs, c'est un livre optimiste, vous l'avez remarqué.
Alors, un mot de la répartition, département. Alors, bon, vous l'avez largement dit. Pourquoi les départements? Parce que ils ont les affaires sociales, mais demain sera peut-être l'inverse. Je sais. Et puis surtout parce qu'ils peuvent disparaître un jour. Peut-être, oui, bien sûr. On va tous disparaître un jour. Mais est-ce que ça vaut le coup de casser? Il y a des départements qui sont très actifs depuis très longtemps sur la culture, qui ont plusieurs musées. Alors vous voulez faire quoi? Les donner aux communes? Les communes, elles ne voudront pas de ces musées parce que ça leur coûte de l'argent. Les régions, je suis pas sûr qu'elles en veulent non plus. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire de ces musées? Il y a beaucoup de musées départementaux.
Alors, c'est la vieille question du millefeuille administratif, et si vous avez lu attentivement le livre, vous avez vu que nous
je crois que vous avez vu, quelques... j'ai lu attentivement.
Absolument, vous avez vu aussi que nous accordons quelques lignes d'introduction un peu spécifiques au chapitre qui traite de la répartition des compétences entre les différentes collectivités locales. Voilà, donc ce millefeuille administratif, la commune, l'intercommunalité, le département, la région, l'État, l'Europe, c'est une vieille marotte française, on essaye de le simplifier en réformant la carte administrative. Nous avons réfléchi aucune des personnes que nous avons rencontrées dans le cadre de ce livre n'avait la même opinion sur cette question. Donc pour l'une, il fallait plutôt insister sur le département, pour l'autre plutôt sur la région, pour l'autre il ne fallait rien changer, pour l'autre c'était l'État qui devait tout faire, que sais-je. Bon, nous nous sommes dit, il faut proposer, il faut quand même aborder cette question, il faut reconnaître la baisse progressive de crédit dans les collectivités locales, il faut reconnaître peut-être aussi, j'allais dire, voilà, une mode actuelle qui est moins favorable aux investissements culturels qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans quand l'argent était plus facile et voilà. Donc proposons des solutions pour simplifier un peu cette carte et du coup pour renforcer le tissu culturel. Il ne s'agit pas de le fragiliser, il s'agit de le renforcer en l'appuyant sur les collectivités qui nous ont paru les plus stables et les plus solides. Voilà. De ce point de vue, les départements nous ont paru, je ne dirais pas le maillon faible, mais peut-être le maillon le plus fragile, dont on sent bien que les compétences, il y a eu des discussions là-dessus quand il s'est agi de réformer la carte administrative il y a 2 ans, vous le savez bien, dont on sent bien que voilà, ça n'est peut-être pas l'échelon sur lequel la France se construira à l'avenir. On va plutôt vers un amoindrissement des compétences du département. Et du coup, nous nous sommes dit, ben, finalement, la commune ou l'intercommunalité, selon les cas, c'est l'échelon le plus stable, le plus solide, c'est l'échelon le plus proche des gens aussi, c'est l'échelon où on peut le mieux se rendre compte des besoins et des désirs culturels de la population. Voilà pour les instances locales. Et au-dessus, on a des régions dont tout le monde nous dit qu'elles feront l'avenir de la France, qu'elles seront dotées de compétences multiples, de financements multiples, y compris de l'Europe. Donc tout ce qui dépasse un petit peu la sphère de la commune ou de l'intercommunalité, eh ben, serait peut-être mieux à la région, même si nous savons bien que jusqu'ici, les régions avaient peu de politiques culturelles dans l'ensemble.
On n'a pas répondu à la question, vous faites quoi de tous ces budgets départementaux ?
Eh bien, il nous semble que, là encore, hein, chaque cas est particulier, mais il nous semble qu'un certain nombre de ces musées peuvent être repris par le cercle intercommunal dans lequel ils se trouvent. Hein, aujourd'hui, vous avez quand même des intercommunalités qui parfois font le quart ou le cinquième du territoire d'un département. Là aussi, l'État. Et oui, mais là aussi, l'État a son rôle d'arbitre, hein, il me semble. Il y a encore des préfets, il y a encore des préfets de région, et c'est peut-être justement au préfet de région qui a un regard sur la région lui-même, de déterminer, en accord avec toutes les parties, avec des tables rondes, avec éventuellement quelques financements croisés, de déterminer l'échelon le plus stable et le plus solide.
Là encore, je trouve très optimiste.
Oui, peut-être, mais on est aussi un peu tranchant hein, sur cette question, je vous l'accorde. C'est-à-dire que on considère aussi que le temps d'une politique de l'offre tous azimuts est un peu passé et que certainement, un certain nombre de propositions de regroupement, de rationalisation, le mot est dur, hein, et le mot est très administratif, vont être occasionnées par ces redéploiements de compétences. J'ajouterai pour la région une proposition que l'on fait, qui est un nouveau et vaste mouvement de décentralisation, qui intéresse moins le domaine de la tribune de l'art, je vous l'accorde, c'est la question du fait que nous souhaitons, dans notre livre, que soit décentralisé tout ce qui concerne la musique, le théâtre et la danse, aux 13 régions. Aux 13 régions, considérant qu'aujourd'hui, 40 ans après la décentralisation, ces régions ont suffisamment fait leur preuve de leur solidité pour qu'on puisse leur donner des compétences extrêmement larges et étendues dans ces domaines-là.
Alors ça sort effectivement du domaine de la tribune de l'art, mais malgré tout, ce que je crains, prenons un exemple, quelque chose qui a été donné aux régions, l'inventaire général, là, qui relève parfaitement du domaine de la tribune de l'art. L'inventaire général voulu par Malraux, c'était quelque chose qui unifiait la France, qui permettait de traiter toute la France un petit peu de la même manière. Le problème, c'est qu'on a donner aux régions la responsabilité de l'inventaire, et qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passera probablement pour la danse, etc., c'est que des régions ont pris ça à bras-le-corps, ont fait ça de manière remarquable, il y a un inventaire régional, des fois couplé avec certains inventaires départementaux, d'ailleurs ils travaillent en commun, il y a des endroits où c'est extrêmement bien fait, où il y a des bases de données même, qui sont meilleures que celles du ministère, et puis il y a des endroits où il n'y a rien, ou quasiment rien, et où il n'y a pas de moyens. Résultat, on va avoir une France qui n'est plus unifié, qui a des petits territoires ou des gros territoires, peu importe, avec des responsables qui se croient chez eux et qui font exactement ce qu'ils veulent. Là, il y a un vrai problème, simplement d'unité nationale.
Oui, je me souviens d'une discussion avec un inspecteur général de l'inventaire qui m'avait dit qu'il ne fallait quand même pas trop embellir le tableau et que l'État avait cédé aux régions des services de l'inventaire qui eux-mêmes étaient très inégaux
Parce que
en
l'État n'était pas
qualité.
le problème, évidemment. Là, je parle dans le cadre d'un État vertueux qui n'existe pas, on l'a vu.
Nous sommes
d'accord.
Idéal.
Voilà.
Idéal.
Donc on se rapproche d'un principe de
et on a...
réalité. Voilà.
Oui, et ça vaut pour l'ensemble des domaines, c'est-à-dire que il faut pas croire que parce que l'État a une compétence, elle s'applique de manière uniforme sur l'ensemble du
C'est clair.
territoire. Il y a beaucoup de facteurs que vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire des facteurs terriblement humains qui rentrent en compte et qui fait que quand vous avez quelqu'un qui s'en occupe, ça marche, et quand vous avez et donc l'organisation administrative a un rôle et une fonction. Mais elle ne pallie pas l'ensemble des défauts qui sont les défauts des défauts souvent
Tout
très humains.
organisé.
Et vous dites aussi, et là c'est tout à fait paradoxal, que finalement ce ministère de la Culture que l'on pourrait rabaisser entre guillemets au niveau d'un secrétariat d'État, bah finalement il y a une autre solution qui serait peut-être encore mieux, ça serait d'en faire non seulement un ministère à part entière, mais un ministère d'État. Donc c'est paradoxal, puisque d'une certaine manière, vous dites que ça peut soit être un secrétariat d'État, soit un ministre d'État. Donc quelle bonne solution.
Je dirais que c'est le côté un petit peu politique et peut-être électoraliste de notre livre. C'est tout simplement une façon de mettre le, si on ose l'expression, de mettre un peu le futur gouvernement ou le futur président de la République devant ses responsabilités. C'est-à-dire le fait de dire, bah, finalement, le ministre de la Culture pourrait ne pas exister, il pourrait ne pas y avoir de ministère de la Culture, c'était évidemment, à contrario, une façon de plaider pour un ministre fort. Voilà.
Alors, sur ce point, oui, c'est vrai qu'on a un langage un peu complexe, en fait, dans notre livre, qui est aussi de prendre la réalité des institutions. On dit dans un premier temps, bah oui, l'éducation nationale, ce serait pas une mauvaise, enfin, pourquoi pas, ça permettrait de faire le lien entre éducation nationale et culture. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on dit, bah, vous avez vu ce que c'est que l'éducation nationale, c'est une machine énorme et il est fort possible que la culture soit mal représentée. Et puis, on a le droit aussi, même dans un livre qui est sérieux, vous l'avez remarqué, d'avoir une part de rêve. Et nous, ce ministre d'État qui serait auprès du président de la République,
on en rêve tous,
voilà, et qui soufflerait en conseil des ministres au président de la République de grandes institutions culturelles. Et bien voilà, on a le droit un petit peu de rêver et de nous projeter. Mais c'est peut-être encore une fois le caractère optimiste de ce livre.
Alors dans le redéploiement des missions, parce que vous avez enlevé donc, alors vous dites le ministère de la Culture, c'est pas vous voulez enlever l'audiovisuel, et je pense que vous avez parfaitement raison. D'abord pour des questions de taille, c'est pas du tout équivalent. L'audiovisuel est beaucoup plus important que tout le ministère de la Culture. Personnellement, moi, je pense que ça pose problème. Et en tout cas, est-ce que c'est vraiment le rôle du ministère des Cultures de s'occuper de la télévision publique? J'en suis pas sûr. Vous dites qu'il faudrait très bien un représentant du ministère des Cultures dans les conseils d'administration des chaînes, etc. Ça, tout à fait, pour que la culture y soit représentée. Mais est-ce que c'est vraiment son rôle? Peut-être pas. Vous proposez de le rattacher plutôt du ministère de l'économie des finances, je crois, ou du...
C'est une vieille question. Je reprends le livre. En 1980, Pierre Emmanuel disait « Il est vrai qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore, puisqu'aujourd'hui, communication il y a, le budget de la culture est la moitié seulement de celui des sociétés publiques de radio-télévision, et que cette disproportion rend sa tutelle inopérante, quand bien même il voudrait l'exercer. »
Voilà.
Alors, il y a deux choses. D'une part, il est évident que la télévision et la radio sont des vecteurs de diffusion culturelle fondamentaux. Et il est évident que le ministère de la Culture...
Ça pourrait l'être.
Et là aussi, c'est notre rêve. Il y a beaucoup de choses qui se font quand même.
Sauf Radio France, France Musique, France Culture
et
Arte.
Oui, mais même le service public, même trop tard, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et simplement, il faut que le ministère de la Culture soit évidemment présent à l'écriture du cahier des charges et pour surveiller l'application du cahier des charges des entreprises audiovisuelles publiques. Après, pour ce qui est de la gestion de ces entreprises publiques, effectivement, c'est bien lourd pour un ministère comme celui du ministère de la Culture. J'ajouterais une chose. Vous savez, les journalistes, je ne sais pas vous faire injure de dire ça, sont souvent intéressés par eux-mêmes, on est tous comme ça. Et donc, quand ils voient le ministre de la Culture, ils lui posent des questions sur les journalistes et sur les entreprises de l'audiovisuel public, avant de lui poser des questions sur la culture. Et donc, il y a un tropisme progressif des ministres à ne plus parler que de l'audiovisuel public quand on les attendrait sur les autres sujets culturels. Et c'est cette disproportion, finalement, de traitement qui nous invite à proposer cela.
Espérons que le prochain président de la République vous écoute et vous lise.
Mais certainement.
Alors vous dites en revanche,
il a notre livre.
En revanche, vous dites, il y a plein de choses qui pourraient rentrer dans le champ, et ça, je suis absolument d'accord avec vous. Je prends par exemple, mais c'est certainement pas exhaustif, une partie d'archéologie finalement qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. si je ne me trompe pas. Mais le Muséum d'histoire naturelle, ça dépend de l'éducation nationale également. L'école des Beaux-Arts, par exemple, est sous une double tutelle. Franchement, on ne voit pas bien pourquoi. En tout cas, pour tout ce qui est les parties de collection au musée, etc., elle serait sous la tutelle de l'éducation nationale. Par exemple, le Musée de l'Armée, qui est sous la tutelle du ministère de la Défense. La politique culturelle étrangère également, qui est faite par le ministère des Affaires étrangères, et où le ministère de la Culture, finalement, n'a pas grand-chose à dire.
Non, la francophonie,
tout à fait. Oui. Donc tout ça, effectivement, ça pourrait revenir au ministère de la Culture, et c'est quand même logique que ça y revienne, donc on comprend très bien pourquoi c'est éclaté à ce moment-là.
Oui, alors ça, ce sont des vieilles traditions. Vous savez que le ministère de la Culture s'est forgé autour de la direction des Beaux-Arts, hein, et donc il a gardé ce tropisme-là. Nous, on pense qu'effectivement, pour que le ministère de la Culture puisse prendre en compte l'ensemble de ce qu'est la culture, eh bien, il faut qu'il étende son périmètre sur l'ensemble des institutions culturelles d'État.
Et l'urbanisme et les sites, très important.
Et l'urbanisme et les sites. Et sur ces questions, effectivement, on pense qu'il est important, par exemple, que le quatrième musée français, Didier Rickner, c'est le musée de l'armée, en termes de visiteurs, on l'oublie. Eh bien, il serait important qu'il relève de la tutelle du ministère de la Culture, parce que cette culture historique fait aussi partie de la culture. Et on a étendu le raisonnement un peu à tout, y compris à la francophonie. Au cœur de notre culture française, puisqu'il faut parler de culture française, on l'a dit, eh bien, il y a la langue française et son rayonnement dans le monde. Et donc, que le ministère de la Culture ne soit pas le dépositaire et n'ait pas la responsabilité de la francophonie, évidemment partagée avec l'ensemble des ministères qui ont à traiter de ce sujet, eh ben, ça nous paraît dommage, et il nous paraît très important que le ministère de la Culture soit aussi le ministère de la francophonie.
Alors, vous voulez aussi réorganiser le ministère de la Culture en son sein, en faisant, par exemple, en supprimant la direction des musées de France, qui n'est plus vraiment une direction des musées de France, pour remplacer. Alors ça, effectivement, on peut dire que ça existait avant, hein, c'est-à-dire que le directeur du Louvre est également directeur des musées de France. Mais encore une fois, c'est aussi une question de personne. Je suis désolé, mais tout le monde le sait. Enfin, je pense que si on mettait le directeur du Louvre, qui a déjà beaucoup de mal à diriger le Louvre, directeur des musées de France, je vous raconte pas la catastrophe. Donc tout cela me paraît un petit peu curieux, un peu bancal, je pense, ce qui me paraît un peu compliqué à gérer.
Qu'avons-nous voulu faire ? Nous avons voulu explorer des pistes en partant d'un constat. Ce constat, vous le connaissez vous-même, c'est l'autonomie grandissante des établissements publics.
Pose problème.
Voilà.
Parce qu'il y a aussi un ministère de la Culture qui n'est pas fort. Il y a un ministère de la Culture qui n'est pas capable de faire entendre raison à des présidents d'établissements publics qui, des fois, veulent se comporter de manière indépendante.
Nous sommes d'accord, il y a eu des articles dans la presse ces dernières années assez réguliers sur qui évoquaient donc cette autonomie, même cette indépendance parfois des établissements publics. C'est un phénomène qu'on voit depuis la fin des années 90 à peu près, hein, l'autonomisation des établissements. Là encore, il y a deux solutions. Il y a la solution idéale qui est un ministère qui assume sa tutelle, mais la citation de Charles lue tout à l'heure pour le début des années 80 sur l'audiovisuel public nous fait penser que ce monde idéal, bon, on n'est pas certain d'y atteindre un jour. Et puis il y a une solution plus pragmatique qui est de dire, bon, voilà, on a ces établissements publics qui pèsent pour une part importante dans le budget du ministère, qui sont aujourd'hui très autonomes, qui ont parfois des capacités de réaction, parce qu'ils ont des effectifs un peu nombreux, supérieurs à celles de l'administration centrale, qu'on le regrette ou pas, c'est bien souvent le cas, eh bien, pourquoi ne pas leur proposer, les associer, puisque malgré tout, ce sont des établissements publics de l'État, avec des missions de l'État, pourquoi ne pas les associer de façon un peu plus rapprochée à la politique publique et leur confier éventuellement certaines parts de politique publique que le ministère ne se considère plus, à tort ou à raison, est-ce qu'il faut le regretter ou pas, je ne sais pas, ne se considère plus capable de faire.
Vous remarquerez que sur ce point, on est assez prudent. Je pense que c'est une question d'expérimentation, que dans tous les domaines, c'est pas forcément la bonne chose. On remarque cependant qu'un cas existe, c'est celui du Centre National du Cinéma, qui est à la fois une quasi-administration centrale et un établissement public, et on peut dire que notre mécanisme de soutien à la production cinématographique se porte plutôt bien et en tout cas donne des résultats. Je pense qu'il faut voir effectivement domaine par domaine. Dans le cas, par exemple, pour prendre un exemple, la Bibliothèque nationale de France est aujourd'hui un établissement public très important, qui regroupe à peu près la quasi-totalité des crédits destinés aux livres et à la lecture. et ce qui ne serait pas naturel qu'il assume un certain nombre de responsabilités dites régaliennes ou en tout cas de l'État.
Ce qu'il fait déjà en partie avec le dépôt légal.
Est-ce qu'il fait déjà en partie avec le dépôt légal? Il faut sans doute voir au cas par cas. Il ne faut pas avoir d'idées prédéterminées, mais je pense que ça a un intérêt pour justement essayer de résoudre l'équation qu'Emmanuel décrivait, c'est-à-dire cette volonté que les instruments publics en matière de culture soient bien au service de l'ambition portée par le politique et par le ministre de la Culture.
La situation la plus médiocre, c'est celle du non-choix, c'est-à-dire de se contenter d'une administration centrale balbutiante, hésitante, qui n'arrive pas à assurer sa tutelle, et d'opérateurs trop indépendants, trop autonomes. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on décide de renforcer l'administration centrale, et à ce moment-là, tout marche pour le mieux dans le meilleur des mondes, ou bien on prend acte de cette situation de faiblesse, et du coup, on transfère au cas par cas, avec prudence, en fonction
c'est,
des... Voilà.
C'est bien pour ça, parce que je pense qu'il ne faut pas prendre acte de cette situation de faiblesse, et qu'au contraire, il faut avoir un ministre fort, cultivé,
dans et d'homme de parole. Nous sommes d'accord.
Nous sommes d'accord.
Donc, je voudrais conclure, alors cette émission a été, comme vous pouvez le constater, plus longue que d'habitude, mais ça prouve bien que ce petit livre qui fait pas beaucoup de, qui fait combien de pages?
150
pages est quand même très très riche et permet de réfléchir à tout ce qui fait l'intérêt, j'espère en tout cas, de la Tribune de l'Art, de se poser des questions sur le ministère de la Culture, sur le patrimoine, sur la manière dont on doit gérer notre patrimoine. Alors, il y a un aspect que, aussi que vous abordez, avec lequel je ne suis pas non plus d'accord avec vous, c'est la Tribune de l'Art se bat et espère toujours qu'un jour il y ait un véritable enseignement d'histoire de l'art. Vous dites bon non, c'est pas nécessaire. Enfin c'est pas nécessaire, c'est pas ça. C'est vous êtes un peu résigné en disant bah finalement ils savent déjà pas parler français, donc apprenons-leur le français d'abord et ensuite l'histoire de l'art. Bah non, ce qu'il faut c'est qu'ils apprennent le français et qu'ils apprennent également l'histoire de l'art. Pourquoi? Parce qu'on apprend comme beaucoup de gens le disent, comme Pierre Rosenberg par exemple le dit, on sait qui est Corneille, Racine et Molière parce qu'on l'a appris à l'école. On ne sait pas qui est Poussin, Fragonard et David. Ça pose problème tout de même, parce que on parlait également tout à l'heure de la culture française. Je crois que d'ailleurs Emmanuel Macron disait que la littérature française existe, et je pense que c'est difficile de nier puisque la littérature française est déjà écrite en français. En revanche, c'était plus pour les arts visuels, par exemple, pour les voyeurs de dire que ça n'existait pas. Or, justement, la peinture française, la sculpture française, ça existe. Ce qui ne veut pas dire que ça rejette qui que ce soit d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'influence. Mais simplement, c'est un art français existe et un art visuel français existe, une architecture française, une peinture, une sculpture française, également une musique française. Donc, ne plus enseigner ou ne pas enseigner ou enseigner mal, comme on le fait actuellement, l'histoire de l'art à l'école, ça me paraît un peu problématique. Or, vous dites, bah, finalement, on ne peut pas y arriver, donc ne le faisons pas.
Alors, pas tout à fait.
C'est un peu de la provocation.
Oui, vous grossissez un peu le trait.
Tout à fait.
Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Qui se font dans tous les établissements scolaires. On emmène les enfants dans les musées. On a tous eu, soit nous, soit nos enfants, des enseignements d'histoire de l'art dans nos enseignements d'histoire ou dans nos enseignements de français. Il y a une question de priorité. On a conscience que on peut pas tout mettre dans les programmes scolaires. Et aujourd'hui, la priorité, il me semble, en matière de culture, c'est que nous parlions tous en France une même langue française, ce qui fait la cohésion nationale, etc. Après, si on peut faire mieux, et je crois et je fais confiance, là aussi vous m'accuserez d'optimisme, mais je fais confiance dans l'action des milliers et des milliers de professeurs qui s'adonnent à ça, eh bien, je pense que il y a beaucoup de choses qui sont proposées en matière d'histoire de l'art, de liens entre les musées, les monuments et les écoles, et je ne suis pas sûr que cela se matérialise simplement par la création, comme vous le souhaitez, je crois, d'un CAPES et d'une agrégation d'histoire de l'art. Alors, vous allez m'objecter l'Italie.
Non, pas forcément, je vous objecterai simplement par rapport à la situation actuelle, mais allez-y, continuez.
Mais on peut dire, voilà, l'Italie a un enseignement d'histoire de l'art et c'est très bien, et évidemment c'est très bien. Je pense qu'en Italie, effectivement, la part historique de cet enseignement dans la formation des citoyens italiens est très importante, qu'historiquement c'est moins le cas en France. S'il y avait une chose à choisir, je privilégierais effectivement la langue française.
Ce que je dirais surtout, c'est que si vous considérez qu'il faut arriver jusqu'à terminale, parce que finalement on ne propose pas forcément de faire de l'histoire de l'art en sixième, où ça pourrait très bien être un enseignement obligatoire à partir de la quatrième. C'est-à-dire, si en quatrième, on ne sait pas parler français, et vous considérez que finalement, on n'y arrivera jamais à faire, on n'arrivera jamais à faire parler français et à écrire en français des enfants en quatrième, c'est vrai que là, vous êtes assez pessimiste, et que je serais peut-être plutôt optimiste par rapport à vous. Je pense qu'on peut y arriver, simplement, effectivement, il faut revenir vers des programmes qui soient peut-être plus dirigés vers les humanités que l'on a actuellement. Voilà, c'est surtout ça. Et je pense que, un des vrais problèmes actuellement, c'est qu'on fait l'histoire de l'art, c'est pas les historiens d'art qui apprennent. Donc un professeur de mathématiques n'est pas forcément bon en histoire de l'art. Un professeur de français n'est pas forcément bon en histoire de l'art. On fait de la musique, c'est formidable. On apprend la musique, mais on n'apprend pas la peinture. En ce sens, on apprend à peindre, encore pas très bien, mais on n'apprend pas à regarder les peintures.
Je crois que ça dépend vraiment des enseignants.
Bien sûr,
ça
dépend des enseignants.
Il y a beaucoup de choses.
Enfin, c'est vrai pour tout, mais quand.
Oui, c'est vrai pour tout, mais je pense qu'on a un peu tendance. Vous voyez, je trouve qu'il y a, au sujet de cette éducation artistique et culturelle, c'est un motif récurrent de tous les discours politiques. Et je trouve que ça a un inconvénient. Je vois bien l'intérêt que ça a de rappeler un certain nombre de choses, mais ça a un inconvénient. C'est qu'on oublie qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Dans toutes les écoles, il y a beaucoup de programmes éducatifs qui se font autour des arts. Voilà, chacun de nos enfants en bénéficie à un certain moment de l'école. Alors peut-être pas suffisamment, ça je vous l'accorde, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font.
Je vous parle de nos enfants, je pense malheureusement que tout ce qui va dans le sens de moins de choses à l'école c'est extrêmement élitiste, au contraire. C'est une vue extrêmement élitiste, parce que je dirais que quand on est moins poussé par sa famille, par son milieu social, on n'apprend pas. Et c'est l'école, je crois que vraiment l'école républicaine, c'est l'école qui doit apprendre ça. Oui. Et si l'école ne le fait pas, pour certains, effectivement, les parents le feront. Mais ça sera reproduire des schémas, et ça sera profondément inégalitaire. Et malheureusement, c'est ce que ne comprennent pas les politiques.
Non,
c'est
mais
que
j'entends.
Plus on abaisse le niveau, plus on est inégalitaire, parce que les enfants s'en sortiront toujours, et puis les enfants qui n'auront pas eu la chance de pouvoir avoir ça dans leur famille ne s'en sortiront pas.
Oui, mais si on ne commence pas par élever le niveau, l'accès à la culture, à mon avis, sera toujours impossible.
Mais je pense que ça doit aller ensemble, c'est-à-dire qu'on doit effectivement se poser la question des programmes, se poser la question d'élever le niveau en français, et de, quand même, à un moment donné, introduire l'histoire de l'art par des gens qui savent ce que c'est que l'histoire de l'art.
Alors, moi j'entends vraiment ce que vous dites, je pense qu'il y a quand même un continent caché, qui est un enseignement de l'histoire de l'art, qui se fait à travers tous les accords, et là partout en France, que ce soit dans les grandes métropoles, comme dans les endroits plus reculés, par les monuments, par les musées, de liens avec les écoles localement. Moi je l'ai vu. Je vais vous donner un seul exemple sur un sujet qui n'est pas très aux Beaux-Arts. Au musée de l'air et de l'espace, au Bourget, qui est sans doute la première collection aéronautique mondiale, et le seul musée national en Seine-Saint-Denis, au milieu de communes défavorisées économiquement et avec des problèmes sociaux importants. Eh bien, le lien a été tissé progressivement entre les habitants des alentours et le musée, habitants des alentours qui ignoraient en général que dans l'aérogare du Bourget il y avait un des plus grands musées aéronautiques du monde, et les choses se sont faites, mais ça s'est fait par des initiatives locales qui ne remontent pas et effectivement qu'il faudrait davantage sans doute mettre en avant, peut-être voilà. Vous me direz que c'est imparfait, que ça ne procède pas d'une politique générale, mais je pense que c'est comme ça que les choses se font.
Et là, je vous donne le coup de pied de l'âne. Alors, ce que vous accordez aux habitants du Bourget, vous le refusez aux habitants de Gravelotte. Terminons sur un point sur lequel vous avez été tous les deux très fortement impliqués. Vous avez fait un livre que j'avais lu, mais dont je n'avais pas parlé malheureusement, mais j'avais beaucoup parlé de ce projet. C'était le projet de la Maison d'Histoire de France. Je rappelle ma position, sachant que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était le devenir de ces hôtels particuliers au cœur du Marais. Je suis toujours d'ailleurs assez inquiet, parce que je crois qu'il y a plus ou moins un projet de vendre certains des hôtels. Non, c'est terminé. Vous me faites signe que c'est terminé, donc très bien. Parce qu'effectivement, moi, ce qui m'importe, c'est que cet ensemble reste de la responsabilité de l'État, et qu'en plus, on puisse traverser, alors ça, on peut le traverser maintenant grâce au projet.
À la Maison de l'Histoire de France.
Grâce à la Maison de l'Histoire de France.
C'est tout ce qui reste. Le jardin.
J'allais dire, ça suffit presque.
Ah, peut-être.
Il y avait un vrai problème quand même, c'était le problème des archives. Des archives. Moi, ma question, c'était le problème des archives. Où est-ce qu'on met les archives? Parce qu'on sait déjà qu'il y a un vrai problème d'archives. Encore plus maintenant qu'un des bâtiments, le bâtiment de Fontainebleau, est abandonné. Je crois que ça s'est fait. Et comment est-ce qu'on met tous ces mètres linéaires qui s'accumulent d'archives? Deuxièmement, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un musée supplémentaire? Je suis pas complètement d'accord, mais vous pouvez redécrire votre projet. En revanche, je ne partageais pas complètement le procès d'intention, d'abord parce que je vous connais, sur le fait que ça allait faire un musée qui serait à la gloire uniquement de la France d'une manière complètement rétrograde, passéiste.
Sarcophage.
Voilà, un sarcophage. je crois que vous le dites d'ailleurs, finalement, Sarkozy, qui ne s'intéressait pas beaucoup à la culture, a lancé ça parce qu'il voulait un grand projet, mais finalement, il s'en est très vite désintéressé parce qu'il voulait pas. Je suis pas certain que ce projet était vraiment nécessaire parce que vous dites qu'on fait toujours des. Vous le dites aussi dans votre livre, hein, chacun veut faire un nouveau projet, puis après, on ne sait pas comment le faire fonctionner. Là, il y avait un problème de fonctionnement, de coût de fonctionnement. Donc, il faut essayer d'être cohérent. Est-ce qu'on peut lancer encore un nouveau projet ou pas? Est-ce que ce projet était nécessaire? Je pense que pas forcément. En plus, il y avait beaucoup de musées qui devaient être rattachés. Je sais que les directeurs de ces musées n'étaient pas forcément très ravis d'être rattachés à cette tête de pont. Vous avez parlé de Monsieur Rioux qui a pondu quand même un rapport ou un quelque chose complètement, je suis désolé, mais illisible. J'avais fait un article où je me suis un peu amusé à le faire, c'est vrai, mais c'était terrifiant. C'était la langue de bois ou la langue incompréhensible, la langue administrative, je ne sais pas, la plus effrayante qu'on puisse imaginer. Le projet n'était pas très très bien parti. Et je terminerai. Où en est-on? Parce que c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est le vrai musée d'histoire de France, celui que j'appelle musée d'histoire de France, avec les... Pas le musée d'histoire de France, mais le musée des maquettes, le musée des invalides, des plans reliefs, qui, lui, faisait partie de cet ensemble, mais finalement, vous avez fait une exposition de pré-refiguration dont j'ai parlé.
Magnifique exposition,
dont je l'ai dit, mais j'ai dit, elles vont toutes être retournées à leur poussière et à leur boîte, et je pense qu'elles y sont retournées. Voilà, c'est un peu là-dessus que je voudrais conclure.
On dit dans notre livre, « La sauver la rue de Valois », que... Quand on interroge les Français sur ce qu'est la culture générale, en général, ils vous répondent la littérature et l'histoire. Et il nous semblait important, c'était en fait un point de départ assez modeste hein, pour ce projet de musée d'histoire de France, qu'il y ait un lieu en France où l'on puisse exposer cette histoire à travers les collections qui peuvent en montrer la matérialité, et puis d'autre part, exposer un certain nombre de grands sujets historiques, de grands débats historiques. Ce qu'aujourd'hui certaines institutions font, le musée de l'armée le fait, mais dans son domaine particulier, le Centre des monuments nationaux a été capable de le faire quelques fois, par exemple avec la très belle expo consacrée à Saint-Louis dernièrement à la Conciergerie. Il s'agissait en fait, ni plus ni moins, que d'un centre d'exposition temporaire et permanent consacré à l'histoire de France. Alors, dans le contexte particulier politique de la France, et avec les passions françaises, comme l'on dit, tout ça a pris des proportions incroyables. On s'est retrouvé au milieu de débats entre recherche et culture, entre histoire et mémoire, entre ceux qui récusaient la possibilité d'une histoire de France, en disant que l'histoire n'a pas de continuité, est archipélagique, etc. Je reprends les termes qu'on a entendus à l'époque, on a tout tu, hein. Le musée de l'histoire Rance avait dit Libération à l'époque sous la plume de Nicolas Offenstadt. Et puis ça c'est tout ça, toute cette aventure s'est terminée un peu en catimini au début du quinquennat de François Hollande. Et puis on a vu revenir un certain nombre d'opposants à ce projet, le principal étant Vincent Duclerc, qui avait signé un article dans Le Monde, disant dans un premier temps qu'il fallait pas de maison d'histoire de France, mais un musée d'histoire en France, et puis en disant que finalement c'était pas un mauvais projet, mais que les politiques l'avaient brouillé, etc. Je pense quand même qu'il y a une question, on l'a bien vu encore avec cette campagne présidentielle, autour de l'histoire de France, et qu'il y a un lieu public pour montrer, débattre de ces questions. Je pense que c'est toujours opportun. Alors peut-être que ce sont d'autres institutions qui doivent porter ce projet, peut-être que c'était... Voilà, certaines choses étaient sans doute maladroites, pas abouties, voilà. Mais je pense que l'ambition répondait à une vraie question, à la fois patrimoniale, parce qu'il y a beaucoup de collections qui traitent de l'histoire de France et qui sont pas présentées, et puis une ambition, disons, plus civique, si on peut oser le terme, même si là aussi c'était récusé, d'avoir un lieu pour parler ensemble avec passion, mais en raison de ce qui nous rassemble et de ce qui nous divise.
Bien, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir... je crois que vous voulez rappeler que vous avez écrit un livre donc sur ce sujet.
Oui, pour en effet renvoyer nos auditeurs à tout le détail des débats qui ont accompagné ce projet de la Maison de l'Histoire de France en 2014. Charles Persona et moi-même, vous l'avez rappelé, avons écrit un petit livre qui s'appelle L'Histoire de France ne passera pas, et qui était une façon là encore amusée et non pas nostalgique de retracer les 4 années de débats homériques et bien souvent exagérés qui ont accompagné ce projet.
Eh bien, je vous remercie tous les deux d'être venus pour cette semaine de l'art un petit peu plus longue que d'habitude, et nous reviendrons bientôt dans une prochaine émission. À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Thank you.